L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait déguster tout le sel du Finistère, un sel bien ancien aujourd'hui. Notre invité est médiéviste. Comme tout historien, il s'intéresse aux documents, mais il leur a consacré un ouvrage avec d'autres spécialistes. Julien Bachelier a dirigé le tout récent Manuscrit de Bretagne Cornouailles, 9e, 12e siècle, édité chez Blanc et Noir. On va donc remonter avec lui aux alentours de l'an 1000, l'époque d'avant l'imprimerie qui date de 1450. Avant donc, l'écriture et la lecture étaient très réservées à une petite élite. Et oui, aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes plutôt à l'ère post-écriture et post-lecture. En tout cas, l'imprimé semble submergé progressivement par le support numérique qui propose autre chose que l'écrit, des vidéos, des images, des sons. Donc là, on va remonter à une époque où l'écriture était une rareté pratiquement sacré. Plusieurs institutions culturelles bretonnes, les Champs Libres de Rennes, les médiathèques de Quimper, le musée de l'ancienne abbaye Landévennec, le département du Finistère, viennent de s'associer pour en racheter un, le manuscrit de Locmaria du XIe siècle et il a coûté 300 000 euros. Julien Bachelier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes maître de conférences en histoire médiévale, responsable du master patrimoine et musée et au centre de recherche bretonne et celtique, le CRBC. Est-ce que le CRBC a participé à l'achat de ce manuscrit, non ?
Alors, pas de manière directe, parce que c'est des questions de financement, il faut mettre des projets sur le long terme, quasiment un an à l'avance, mais on a consacré beaucoup de temps avec des collègues, donc d'une certaine manière, le CRBC, l'UBO et donc l'État ont contribué directement à l'achat.
Une rareté dont on va parler tout à l'heure, et puis on peut la voir dans le Finistère en ce moment. Alors votre ouvrage, donc il concerne une période finalement assez restreinte, quoique, en Bretagne et en Cornouailles. Alors pourquoi cette période particulière ?
Alors c'est très lié à l'acquisition du manuscrit de Locmaria, c'est-à-dire qu'il y a eu alors 11e siècle, plutôt fin 11e. Et donc l'ouvrage que j'ai dirigé avec donc plusieurs auteurs, c'était de faire un peu un point sur nos connaissances, sur les manuscrits qui étaient produits donc, au moment où le manuscrit de Locmaria est rédigé, et de remonter un petit peu jusqu'au moment où on avait des écrits, et les premiers écrits conservés, les manuscrits du moins, c'est fin 8e, début 9e, donc ce qui donne... l'historien fait avec les sources, donc on commence avec les écrits fin 8e et on s'est arrêté fin 11e avec Locmaria, puis c'est une cohérence aussi, c'est une période qui correspond à des écrits monastiques et après la documentation change un peu, donc c'est tout simplement la matière première, les sources qui nous orientent sur la chronologie.
Et combien de manuscrits vous aviez ? Enfin, le plus ancien, c'était celui du 8e siècle. Il appartenait à quelle abbaye ?
Alors, il y a des débats.
Oui, c'est ça. On ne sera jamais sûr de rien.
On se rapproche d'un certain nombre de certitudes. Les faisceaux se resserrent, mais en fait, c'est des documents qui sont très difficiles à dater, puisqu'en Bretagne, il ne reste plus que 6 manuscrits qui sont conservés. Des fois, c'est simplement des feuillets. Tout est dispersé. Donc, c'est dispersé en France, en Europe et même dans le monde. Et donc, finalement, on a peu de manuscrits qui sont sur place. Et les attribuer, c'est très certainement les manuscrits les plus anciens peuvent être attribués à Locmaria, qui était Landévennec, qui était l'abbaye l'une des plus prestigieuses, sinon la plus prestigieuse, à la fin au cours du Moyen-Âge, donc fin 8e, c'est très certainement elle qui le produit. Mais la différence de nos livres, où on a la documentation, où c'est écrit à la fin, où c'est imprimé, où est le lieu d'édition et ainsi de suite, pour nos manuscrits médiévaux, on n'a pas cette information-là.
Donc, c'est jamais marqué fait à l'abbaye de Landévennec par... tel et tel moine, non.
Alors, c'est jamais mis comme ça, mais par contre, quand vous avez la rédaction d'une vita, c'est-à-dire la vie de Saint-Guénolé, il y a quand même de grandes chances que ce soit à Landévennec et pas ailleurs. Donc, on a un faisceau d'indices. Parfois, on a des noms de moines. Alors, de manière exceptionnelle, on peut avoir des mentions où c'est bien indiqué à la fin qu'on fait une donation d'une terre pour financer ce manuscrit. Et donc là, on s'est rattaché une abbaye directement. C'est notamment le cas d'une Bible de Redon qui est entreposée à l'heure actuelle à Bordeaux. Bon, il y a tout un trajet qui est original, parce que chaque manuscrit a un parcours, mais on a très rarement la mention du lieu de conception du manuscrit.
Et ces manuscrits donc, de cette époque, donc 9e, 12e siècle, on va dire, c'était toujours fait dans les abbayes est-ce qu'il y avait d'autres manuscrits qui seraient parvenus jusqu'à nous quoi,
Alors globalement, de ce que l'on sait, pour l'immense majorité, on part plutôt du principe que c'est fait, fabriqué, conçu, produit dans le monde monastique. Alors, il peut y avoir également dans le monde des chapitres cathédraux, c'est-à-dire autour des cathédrales et des évêques, Mais là, on n'a pas de preuves. Il devait y en avoir. Hein. Par exemple, à la fin du XIIIe siècle, on sait que le chapitre cathédral de Quimper, la cathédrale avait 44 manuscrits. Il n'en reste plus aucun. Et donc, on sait pas où ils sont passés. À la fin du Moyen-Âge, on en avait à peu près 200. Ils ont tous disparu aussi. Donc, il y avait des écrits qui étaient produits par les cathédrales. Pour le IXe, XIe siècle, on n'est pas sûr, notamment en Bretagne. D'autant plus que les évêques commencent à produire des écrits au cours du XIe siècle. Et c'est plutôt des écrits juridiques pour leur possession plutôt que des écrits pour former les religieux.
Bon, après, vous ne pouvez pas travailler sur tout, évidemment. Enfin, j'imagine qu'il y avait peut-être des écrits d'ordre enfin, tout à fait séculier, quotidien, mais bon, ceux-là, ils ne sont pas déjà arrivés jusqu'à nous.
Alors, ça, c'est l'une des difficultés, c'est-à-dire que les institutions religieuses, ben, c'est notamment ce qu'on a dans les textes, puisqu'on faisait des donations ad perpetuam, c'est-à-dire pour l'éternité. Et donc les gens pensaient que les institutions religieuses allaient toujours vivre. Ils n'avaient pas imaginé la Révolution française. Et par contre, pour les familles laïques, c'est-à-dire les seigneurs, la noblesse, on s'aperçoit qu'en général, ces familles s'éteignent au bout de 200, 250, 300 ans. C'est à peu près des moyennes. Et notamment au milieu du XIIIe siècle, on a une extinction d'un certain nombre de familles. Et là, les archives disparaissent. Parce qu'en fait, il y a des fusions, il y a des mariages. Et en fait, bah, la famille du marié se fiche un peu des archives de la mariée. Donc c'est pas stocké comme il faut, c'est pas entreposé, et donc ces archives-là disparaissent. Donc dans le milieu séculier, laïque, nobiliaire, on n'a quasiment aucune information.
Et dans ce milieu-là, on sait quand même qui savait écrire, enfin, quels étaient les gens qui savaient écrire.
Vous l'avez dit en introduction, c'est quand même relativement limité. Hein. On écrit peu, l'écrit coûte très très cher, c'est une marque de prestige à la fois en termes d'ostentation, mais également pour montrer la maîtrise de l'écrit. Donc c'est réservé à une toute petite élite masculine, pour l'immense majorité. On peut avoir des femmes, on a quelques exemples de femmes qui savent écrire. Pour le haut Moyen-Âge, on avait Diodoa, qui écrivait en Aquitaine, ou Hildegard de Bingen, la seconde moitié du XIIe. Bon, là, on aurait bien aimé trouver dans notre manuscrit de Locke Maria la mention d'une religieuse ou d'une abbesse. Bon, bah, on n'a pas trouvé.
Et oui, et d'ailleurs, parce que c'est ça, est-ce qu'on n'est pas sûr qu'à Locke Maria, il y avait un scriptorium, comme on dit, c'est-à-dire un atelier d'écriture?
Non. Pour le manuscrit de Locke Maria, les premières hypothèses, c'était l'an des Vénèques, puisque c'était le seul scriptorium qui existait dans cette partie-là, qui pouvait produire un manuscrit de cette qualité. Parce que c'est quand même, en termes de qualité, c'est bien écrit, c'est très bien fait. Et les recherches de Cyprien Henry ont montré que finalement, c'était peut-être un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire l'écriture, le type de parchemin, oriente plutôt vers le sud Cornouailles, avec des points de comparaison avec Quimper. Et donc, il n'est pas impossible que ça soit une production, enfin, que le manuscrit dit Locke Maria soit une production du sud Cornouailles. Peut-être le scriptorium de l'abbaye de Locke Maria, mais on n'a pas d'autres manuscrits pour comparer. Et en plus, on peut se poser la question, est-ce que c'était... Parce que c'était une communauté double, hommes et femmes.
Oui, c'est ça, il faut peut-être rappeler ce que c'était, Locke Maria.
Locke Maria, c'était une abbaye... alors, on n'a quasiment aucune information avant le milieu du XIe siècle. Justement, tous les écrits ont disparu avant. Ou alors, ça se trouve, il n'y en a même pas. Et à partir du milieu du XIe siècle, on voit l'installation d'une communauté de femmes, des religieuses, avec une abbesse et des moniales, des religieuses, ce qu'on appelle familièrement des bonnes sœurs. Et elles sont installées au milieu du XIe siècle ici, mais elles chapeautent une communauté d'hommes qui est plus ancienne, sur laquelle on a que des hypothèses. Alors, est-ce qu'il y avait une abbaye plus ancienne? Est-ce que c'était le centre épiscopal de Quimper? Mais on sait qu'il y a une communauté d'hommes et c'est chapeauté par des femmes. Et donc, ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle un monastère double. C'est assez courant, fin XIe, début XIIe. On a plusieurs exemples comme ça partout en Occident, notamment dans l'Ouest. Et donc, il faut imaginer qu'il y avait deux communautés. Alors, est-ce qu'il y avait deux scriptoriums? Bon, ça, déjà qu'on n'est pas sûr qu'il y en ait un, donc en avoir deux, ça serait pas mal. Mais voilà, c'est comprendre un petit peu l'articulation de tout ça, savoir s'il a pu être fait sur place à Locke Maria, et est-ce qu'il a pu être produit par des femmes, parce que les femmes qui sont recrutées comme religieuses, elles appartiennent à l'élite. Donc elles sont forcément très bien formées, elles savent lire, et donc elles peuvent savoir écrire.
Peut-être écrire, oui. On va peut-être passer à la matérialité de ce manuscrit, parce que quand vous travaillez sur un manuscrit, vous travaillez sur quoi exactement ?
Alors, le mieux, c'est de travailler sur l'original. Alors maintenant, il y a le numérique, mais le mieux, c'est quand même de voir l'objet, de toucher. Donc, c'est du parchemin. Ici, c'est vraiment du parchemin.
Donc, c'est de la peau d'animal, de mouton, c'est ça ?
Alors là, on n'est pas sûr. Ah, ouais. Très certainement, c'est de la peau de mouton. Parfois, ça peut être du velin, de la peau de veau, du veau mort-né. Donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce type de parchemin là sous la main. Donc, ça veut donc dire qu'il faut avoir quand même le bétail, entre guillemets... à proximité. On peut avoir d'autres types d'animaux, ça peut être de la chèvre. Des fois, on a même des traces en Angleterre de baleines. En fait, ça dépend un petit peu ce qu'on a sous la main. Mais vraisemblablement, c'est plutôt du mouton qui a servi. Et c'est un petit ouvrage qui fait 21 cm sur 13.
Donc, et c'est quand même une forme de livre. Hein. Enfin,
oui, voilà. On est vraiment dans le livre tel que ça a été inventé à la fin de l'Antiquité. C'est-à-dire avant, c'était des rouleaux. Et à partir de la fin de l'Antiquité et tout au long du Moyen-Âge, on va avoir une transformation. C'est-à-dire à la place des rouleaux, qui ne sont quand même pas très pratiques pour lire, on va passer à des ouvrages tels que l'on connaît aujourd'hui ou que l'on peut tenir en main. Et notamment celui de Locke Maria. C'est un petit ouvrage, 21 cm sur 13. Il se tient très bien en main.
Il est encore extrêmement bien conservé, je l'ai vu. Sauf la couverture, c'est ça, la reliure a été refaite récemment, au 19e, non?
Oui, c'est une reliure qu'on appelle moderne, parce que c'est ce qui s'abîme le plus. Et d'ailleurs, quand on ouvre le manuscrit sur la première page, et donc dans l'ouvrage, on voit la première page, on trouve 5 traces de rouille sur la première page, disposées de manière géométrique, et tout simplement, c'est la trace de l'ancienne reliure. Donc il devait y avoir une reliure, alors quel matériau, on n'en sait rien, mais bloqué par des petits clous qui ont laissé des traces de rouille sur la première page. Donc tout ça, ça a disparu. Par contre, l'intérieur est globalement en bon état, ça n'a pas bougé.
On ne l'ouvrait pas beaucoup, ce livre, en fait, sans doute.
Je pense que si. Je pense qu'il devait être ouvert souvent, parce que c'est un commentaire. La comparaison que j'ai pu faire plusieurs fois, c'est notamment auprès des étudiants, c'est leur expliquer que finalement, c'est un ouvrage de base quand on est...
C'est un manuel scolaire, si on veut.
C'est un bouquin de première année quand on a la fac. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a sous la main, mais en attendant, il devait y avoir une religieuse ou un religieux qui devait le lire et le commenter pour former. Donc, il devait être relativement utilisé. Et ça ne laisse pas beaucoup de traces, que le parchemin, c'est nettement de meilleure qualité que le papier. Donc, on peut tourner les pages pendant des décennies, des siècles. Je ne vais pas dire que ça ne bouge pas, mais enfin, bon, si on se comporte comme il faut, ça ne s'abîme pas.
Et donc, c'est un commentaire de l'évangile de Saint-Jean, c'est ça?
Saint-Marc.
D'accord.
Donc, l'évangile de Saint-Marc, c'est au cours de la seconde moitié du 1er siècle. Donc, c'est transmis par l'Église. Et fin 7e, début 8e siècle, il y a un moine anglo-saxon, Bède le Vénérable, qui fait un commentaire. Parce qu'en fait, ce sont des phrases qui ne sont pas forcément simples d'approche. Il y a plusieurs lectures que l'on peut faire. C'est ce que fait Bède. Une lecture littérale et une lecture symbolique. Il y a toujours un double commentaire. Et donc, c'est ce commentaire qui est très intéressant, plus d'une certaine manière que l'Évangile, parce que finalement, l'Évangile, c'est pas très original quand on a un religieux. Par contre, avoir des commentaires, des explications pour des jeunes religieuses, c'est fondamental pour savoir le message, pour bien comprendre l'essence même du message. Et c'est ce texte-là qui est principalement recopié dans le manuscrit de Locke Maria. C'est pas tellement l'Évangile, parce que d'ailleurs, le script s'en barre pas. Des fois, il met etc. C'est-à-dire
que allez voir la source. Vous référez au texte.
Voilà. Ouais. Donc, il ne s'embarrasse pas, parce que ça prend de la place, ça prend du temps, donc il met etc. Et donc, par contre, le commentaire de Bède semble in extenso.
Et ce commentaire était. Enfin, il y avait plusieurs exemplaires, justement, qui avaient été produits à l'époque.
Voilà, c'est-à-dire que Bède le Vénérable, c'est. Cyprien Henry en a parlé donc, samedi dernier à Landévennec, qui l'a qualifié de star. Alors, star, c'est vrai que ce n'est pas à l'heure des réseaux sociaux, c'est toujours. Difficile d'estimer, mais pour le Moyen-Âge, par exemple, le commentaire que Bède a produit sur Marc est conservé aujourd'hui dans 96 manuscrits. Ce qui peut sembler relativement faible, mais au Moyen-Âge, on part du principe qu'un best-seller, c'est à partir de 30 exemplaires.
Oui.
Donc là, 96, et puis c'est ce qu'on connaît, parce qu'il y a tout ce qu'on ne connaît pas.
C'est ça, tout ce qui est arrivé jusqu'à nous, en tout cas.
Il y a une centaine de manuscrits qui en faisaient état, et ça fait partie des ouvrages de Bède qui sont parmi les plus copiés et recopiés.
Et donc, on sait qu'il y a d'ailleurs ce commentaire-là de l'Évangile de Saint-Marc, il y en a eu plusieurs produits, on sait combien à peu près
Ceux de Bède, c'est au moins 95, donc plus 1 avec celui-ci, et vraisemblablement, mais alors là c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faudrait voir chacun des manuscrits, donc les 95 autres, pour voir si on a le même texte, pour voir si on a les mêmes commentaires, s'il n'y a pas des erreurs de scribe, ainsi de suite. En l'état actuel, on a vraisemblablement le seul manuscrit qui fait une copie intégrale de l'œuvre de Bède. C'est-à-dire qu'ailleurs, ce sont des extraits, parce que les moines ne recopiaient pas tout en général, ou des fois ça peut être perdu. Et donc dans les autres manuscrits, d'après ce qu'on a pu comprendre, ce sont plutôt des extraits. Et là, on aurait le texte in extenso, ce qui est relativement rare.
Oui, d'où son intérêt. Et donc, les abbayes, elles avaient combien d'ouvrages de références, de manuels, comme ça
Alors, c'est extrêmement variable, parce qu'entre les abbayes qui sont les plus prestigieuses et les abbayes qui le sont moins, c'est compliqué. Alors, on peut prendre quelques points de comparaison, notamment par rapport aux manuscrits bretons qui sont aujourd'hui connus. On estime qu'il y en a à peu près 150 pour le 9e, 12e siècle, qui sont connus dans le monde entier. Mmh. Et pour un point de comparaison, les grandes abbayes normandes, Mont-Saint-Michel, Saint-Vendry, Le Bec, avaient au 12e siècle, à elles seules, 140 à 150 manuscrits.
Ah oui.
Donc, vous voyez, donc on a vraisemblablement peu d'écrits en Bretagne, peu de manuscrits, beaucoup de disparitions. Et puis, y a des ouvrages, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne reste plus que 6 manuscrits sur quelques centaines, voire quelques milliers.
Oui, puis ce qui était produit, bah, par exemple, à Landévennec, partait. Enfin, c'était pas produit forcément pour Landévennec aussi.
Alors, non, alors, la plupart du temps, c'est quand même une production locale pour un usage local. Mais dans certains cas, il peut y avoir des commandes. On a des misels qui sont commandées aux moines de Landévennec au XIe siècle. On a des Vincins qui leur sont commandés. Alors, on n'en a pas retrouvé beaucoup. Hein. Mais sur la vingtaine de manuscrits qui sont attribués à Landévennec, on a comme ça quelques commandes. Et puis ensuite, il y a des ouvrages qui sont prêtés et qui ne sont jamais restitués. Ça arrive aussi. Et surtout, pour les manuscrits bretons, il y a l'épisode des invasions, ou des raids plutôt, plus que des invasions, des raids vikings début du Xe siècle, qui font que les manuscrits sont dispersés tout dans le nord de la France.
Voire détruits, éventuellement. Enfin, est-ce qu'on sait si les vikings les gardaient
Les vikings, probablement pas. Après, les moines étaient au courant qu'ils risquaient de se faire attaquer. C'est-à-dire que dans une période d'instabilité, les moines, c'est un peu les banques des Far West du XIXe siècle. C'est-à-dire, si on veut attaquer un truc, on va attaquer plutôt un monastère parce qu'on sait qu'il y a des richesses. Et en plus, c'est pas très bien protégé. Parce qu'il y a les prières qui protègent, mais enfin, en termes d'efficacité, les vikings en ont vu d'autres. Plutôt que les cités qui sont fortifiées et protégées, les monastères, c'est riche et c'est porte ouverte.
Des cibles faciles.
Voilà.
Et donc, ils les mettent à l'abri, les manuscrits, en fait, les moines, quand ils savent qu'on arrête ça.
On le voit, ils disent dans les textes, ils partent avec leurs trésors, c'est-à-dire les reliques des saints, leurs archives et leurs manuscrits.
Alors, un manuscrit aussi, comme celui de Locmaria, qui fait donc combien de pages, vous disiez?
88 feuillets, c'est-à-dire ça fait 7-8 cm d'épaisseur.
Pas d'illustration, quasiment pas, si.
Non, c'est rare les illustrations. C'est-à-dire qu'on a souvent ces.
Ouais, les enluminures, tout ça.
Voilà,
là,
sur des pages ou demi-pages, des quarts de pages, ou des lettrines. Il y a quelques lettrines, mais qui ne sont pas spécialement travaillées, parce que ce n'était pas le but. Vu que c'était un manuel, on n'allait pas.
Oui, c'était un usuel.
Une fortune, voilà. C'est-à-dire qu'on n'allait pas mettre une fortune pour décorer. Donc il y a quelques lettrines qui sont travaillées, notamment une expositionnée au début du texte, où le I est travaillé, mais bon, voilà, c'est pas extraordinaire d'une certaine manière.
Et alors, on estime qu'il a fallu combien de mois de travail pour faire ce manuscrit?
Alors, c'est très compliqué de savoir le nombre de mois. Globalement, on part du principe qu'un moine est capable de produire 4 à 6 folios par jour.
Ah, quand même, oui.
Mais c'est beaucoup, parce que c'est des moyennes, mais ensuite, il faut tenir compte des fêtes religieuses. En fonction des diocèses, il n'y a pas le même nombre. Des conditions climatiques. Si vous êtes dans le sud de la France, l'été, naturellement, vous allez moins produire. Mais si vous êtes en Angleterre, il y a des saisons, notamment l'hiver, vous allez aussi moins productif. Donc, il faut tenir compte de tout ça. On part du principe que pour une Bible, il faut un moine qui travaille une année entière. Vraisemblablement, il faut plus. C'est-à-dire que le manuscrit de Locmaria, c'est plusieurs mois de travail et il y a vraisemblablement 2 voire 3 personnes qui ont travaillé dessus.
Voilà, alors comment ça vous le savez? Donc vous travaillez donc sur le manuscrit lui-même et puis vous travaillez sur
l'écriture.
Voilà.
C'est-à-dire on regarde comment c'est écrit et en fait, en plus on a l'habitude quand on est enseignant, on voit souvent des copies. Donc on a l'habitude de s'habituer à des formes d'écriture et là on voit très bien dans le manuscrit de Locmaria, alors même s'il faudra le reprendre, il y a au moins 2 mains. C'est-à-dire il y a 2 personnes qui ont rédigé, voire peut-être 3. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a un correcteur. Et on voit les corrections, c'est-à-dire à la fin de chaque ligne quasiment. Alors j'exagère un peu, mais si vous regardez, parce qu'il est numérisé maintenant, ou si vous regardez dans l'ouvrage, on voit à la fin de chaque ligne un petit trait pour noter quasiment, voilà, c'est bon, il n'y a pas de faute. Et quand il y a des erreurs, il y a des corrections qui sont apportées dans la marge. Quand il y a un mot qui est oublié ou un mot qui est mal écrit, il y a des corrections.
Et donc ça, vous faites de la graphologie, vous étudiez le style d'écriture pour savoir qu'il y a 2 personnes.
Voilà, en fait, quand on finit par s'y habituer et on voit que certaines lettres ne sont pas faites de la même manière, les D, les R, ou on voit que l'écriture est un peu plus fine à certains endroits qu'à d'autres, la manière de poser la plume, on voit que c'est pas de la même manière non plus. Donc voilà, c'est la familiarité avec l'écrit du Moyen-Âge qui nous permet d'avoir ces hypothèses sur plusieurs mains.
Et potentiellement, est-ce que tous les moines de Landévennec, enfin, disons que ça soit là, pouvaient écrire, enfin, pouvaient participer à l'atelier?
Alors, sur le papier, enfin, sur le parchemin, c'est oui. Mais dans la réalité, c'est un peu plus délicat, parce que vraisemblablement, les moines sont plus ou moins spécialisés selon leurs compétences et leurs appétences. Pour le XIe siècle, on n'en sait rien. Il y a juste un manuscrit du milieu du Xe siècle où on voit qu'il y a 3 moines de Landévennec qui ont travaillé dessus. Est-ce qu'ils étaient que 3 à avoir travaillé dessus? Ça, on n'en sait rien. Et ensuite, il va y avoir des moines à qui on ne confiait pas certaines choses ou qui étaient plus à l'aise avec d'autres types d'activités. Mais en général, c'était un travail qui pouvait faire appel dans les plus grandes abbayes à 5-6 moines différents. C'est-à-dire qu'il faut travailler la peau, il faut faire des réglures, des lignes, parce qu'il n'y en a pas, c'est pas comme nos feuilles aujourd'hui qui sont imprimées directement.
Ah oui, on trace des lignes pour écrire droit.
Bah, on trace des lignes avec ce qu'on appelle un stylet métallique, donc qui laisse des toutes petites traces que l'on observe très bien sur le manuscrit de Landévennec qui a été exposé ce week-end à Landévennec ou ce week-end à Quimper. On voit très bien les petites lignes, donc pour les marges et pour les lignes, donc les tracés horizontaux et verticaux, pour écrire droit tout simplement. Et donc ça se distingue très bien. Et donc ensuite, il y a quelqu'un qui écrit, mais ça, ils peuvent être deux ou trois. Et ensuite, il y a un relecteur, un correcteur. Et puis, il y a quelqu'un qui va dessiner des lettrines, éventuellement, ou pour les manuscrits les plus chics, des enluminures.
Oui, des spécialistes pour ça, quoi.
Voilà.
Et l'encre utilisée, là, dans le cas du manuscrit de Lode Maria, c'est quoi?
Bah, j'en sais strictement rien.
Parce
qu'il faudrait des études plus poussées pour ces encres-là. En général, chaque monastère, voire quasiment chaque moine, avait sa recette, sa tambouille. Donc, ils avaient ça se tient très bien. D'ailleurs, si vous le voyez aujourd'hui,
ah oui,
quasiment 900 ans après, ça se lit parfaitement.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ils utilisaient. Donc, il y avait trois matières, c'est ça, pour composer une encre, c'est ça,
Ça va complètement dépendre des monastères.
Il y a une colle quand même déjà.
Il y a du liant, mais
ouais.
Qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ça, c'est résiduel.
Par exemple, ça peut être quoi?
Ça peut être du charbon. Certaines hypothèses allaient à un moment sur de l'encre de sèche ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est des produits naturels que l'on trouve tout simplement dans la nature à base de charbon, la plupart du temps. Et si on veut mettre des couleurs, ce sont des pigments qu'on va, dans certains cas, importer, principalement du rouge et du bleu, parce que c'est ce qu'on a sous la main.
Et les plumes, c'est toujours des plumes?
Ah oui, ça c'est certain, ce sont des plumes. Alors là aussi, c'est difficile de savoir quelle était la plume utilisée, parce qu'on n'a pas retrouvé de plume. Au niveau archéologique, c'est toujours compliqué. Mais
on a retrouvé beaucoup de choses à Landévennec.
Voilà,
mais
y a des... ouais. À ma connaissance, non.
Enfin, je ne sais pas, on fera l'émission la semaine prochaine, donc on leur demandera.
C'est vrai que ça a été très bien fouillé pendant 25 ans. Et donc, en général, c'est une plume. Et dans les manuels que l'on a à la fin du Moyen-Âge, la plume qui est la plus réputée, c'est la plume de Loie, et notamment la septième plume de l'aile gauche.
Très bien. Sans doute qu'elle a un bon calibre. C'est... Alors, dans le cas du manuscrit de Lode Maria, donc, qu'on a pu voir à Landévennec ce week-end, mais qu'on verra encore à Quimper le week-end prochain, est-ce que ça nous apprend des choses sur le contexte politique, social, à part le fait que des femmes pouvaient travailler ou pas au scriptorium, et encore?
Alors, sur le contexte politique, de manière indirecte, c'est-à-dire que quand je vous disais tout à l'heure que Lode Maria est fondée au milieu du XIe siècle, il est fondé par les princes de Cornouailles, qui ensuite vont être ducs de Bretagne, et qui fonctionnent vraisemblablement par mimétisme avec ce qui se passe à Rennes également. C'est-à-dire à Rennes, on a la même chose, un monastère féminin qui est fondé dans les années 1020, 1030, 1040. Et donc, c'est la même temporalité à quelque chose près. Donc, ça nous montre que ça fonctionne sur les mêmes dynamiques. Donc, ça, c'est au plan religieux, culturel. Il y a également un autre point, mais ça, c'est Cyprien qui va devoir creuser ça un petit peu plus, qui connaît parfaitement les documents écrits. C'est les liens culturels. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un manuscrit qui était copié. Copié, oui, mais sur quel document?
Était
le manuscrit originel. Et les hypothèses qu'il a à l'heure actuelle, c'est l'orienterait plutôt en direction de manuscrits qui aujourd'hui sont conservés soit en Belgique, soit éventuellement au Pays de Galles.
Et c'est là que vous pouvez nous raconter un petit peu aussi comment vous avez retrouvé ce manuscrit de Lode Maria, comment vous avez fait pour le racheter. Bon, ça pourrait rendre une autre émission entière, mais...
Ah oui, ça pourrait être très long. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle fondamental, c'est Jean-Luc de Ficq, qui, dès 2004, en parle dans un article. Et ensuite, c'est une information qui, comme ça, passe un peu sous les radars. En 2022, avec Arnaud Hibert, on organise un colloque à Lode Maria pour les 1000 ans de l'abbaye. Cyprien Henry revient sur la pancarte de fondation, l'acte de fondation de Lode Maria, et il évoque à nouveau le fait qu'il existe un manuscrit de Lode Maria qui serait bien de pouvoir voir, pour voir les points de comparaison avec son texte à lui. Et donc, on l'a expédié à Oslo pour voir le document. Et donc, ça, c'était en mars 2023. Donc, il a vu le document. Et c'est là où il a pu affiner ses hypothèses. Il n'avait simplement que quelques photos de mauvaise qualité qui avaient été envoyées par la fondation qu'il détenait. Et donc, ça s'est accéléré. En 2024, il a été mis en vente. On l'a su de manière officieuse en mars et officiellement au mois de mai.
Et il avait été bien conservé. Enfin, il avait été conservé dans quelles conditions?
C'est extrêmement compliqué de faire le parcours. C'est-à-dire que on sait la fin de l'histoire. C'est-à-dire aujourd'hui la reine. Quand on remonte, on sait qu'il a été dans une fondation en Norvège pendant une dizaine d'années. Il a vraisemblablement été dans l'est de la France. Il a également été à Chicago aux États-Unis. Tout ça, c'est dans les années 90, le moment où il y a une forme de spéculation autour des manuscrits qui se met en place. On sait qu'avant, au 20e et 19e siècle, il est dans des collections privées de l'ouest de la France. Et donc voilà. Et après, on en sait un peu, on ne sait pas grand-chose et je ne suis pas sûr qu'on puisse remonter bien au-delà.
Alors, en tout cas, on en a pris soin vu que...
Oui, et puis non seulement on en a pris soin, et puis c'est de très bonne qualité. Hein.
Ouais, c'est ça. De toute façon, à la base, c'était du costaud.
Il m'a fallu que ça dure.
Ouais, c'est ça. Et donc, dans votre livre, dans l'ouvrage que vous avez dirigé, il y a d'autres manuscrits très intéressants que vous signalez. Enfin, il y a notamment des illustrations.
Oui, c'était l'intérêt, c'était aussi de montrer, parce que la plupart de ces manuscrits peuvent être numérisés, mais enfin, si on n'est pas spécialiste, on ne sait pas forcément les trouver. Donc, c'était montrer au public un petit peu les manuscrits, à quoi ça ressemblait, les dimensions, les textes, les orientations, qui les produisait, quels étaient les lieux de production des scriptoria, des ateliers d'écriture. Et donc, l'ouvrage essaie de montrer comme ça un petit peu la diversité des écrits bretons et de Cornouailles, puisque Landévennec était le scriptorium le plus dynamique.
Bon, en tout cas, on peut encore voir le manuscrit de Locmaria ces vendredis et samedis à la médiathèque Alain Gérard de Quimper avec des animations. Et vous serez là, je crois aussi, pour en parler. Julien Vachelier, merci beaucoup.
Merci.
Et on pourra réécouter cette émission, comme d'habitude, sur le site internet de Transistor.